La Première Podcast.
Un jour dans l'histoire, jusqu'à 14h30, sur La Première.
Et avec vous, Caroline, donc on prend la direction du cœur historique de Bruxelles.
Mais oui, Laurent, prenez vos pelles, vos bêches, on va creuser la terre parce que le sous-sol bruxellois, c'est un véritable livre d'histoire. Des archéologues de l'ULB viennent de finir un très grand chantier en plein cœur de Bruxelles. Des fouilles qui n'ont pas été vaines et on a eu envie de partager le fruit des recherches de ces archéologues avec vous. Pour en parler, nous avons rencontré l'un d'eux, c'est Philippe Sosnowska, et on va tenter de savoir tout d'abord comment ces fouilles ont commencé.
Mais ces fouilles-là, en fait, ont commencé depuis le 9 septembre. Donc on a eu 4 mois et demi, plus ou moins, de fouilles sur un terrain assez important. C'est assez rare à Bruxelles de pouvoir, en tout cas pour Bruxelles-Ville, de pouvoir fouiller un terrain aussi grand et aussi près d'un lieu aussi prestigieux que la Grande Place de Bruxelles et son hôtel de ville. Mais ces fouilles, en fait, suivent d'autres fouilles qui ont déjà été menées en 92-94 par l'ULB. Donc on a eu une première phase de fouilles dans les années 90 et une seconde phase tout récemment, avant l'installation et la construction d'un complexe de bâtiments.
Donc c'est les fouilles de 92 qui vous ont laissé à penser qu'il y avait encore beaucoup de choses à découvrir sur le même terrain ?
Tout à fait.
D'accord.
Donc les fouilles de 92-94 avaient mis en évidence toute une série de vestiges anciens, remontant du 12e siècle jusqu'au 20e siècle, puisque ce quartier a été démoli dans les années 60 pour insalubrité. Et ces fouilles avaient mis en évidence en fait l'existence d'un atelier de savetier cordonnier, plus toute une série de structures bâties montrant une urbanisation en fait de la ville à partir du 14e siècle jusqu'à l'heure actuelle.
Ouais.
La ville ne fait qu'évoluer.
En général, quand on commence un chantier comme celui-là, c'est quoi ? Avant un projet immobilier qu'on découvre qu'en fait il y a des vestiges intéressants dans le sol, comment est-ce qu'on est amené à découvrir ces vestiges-là justement ?
Eh bien, pour Bruxelles, finalement, c'est assez, je ne vais pas dire simple, mais Bruxelles est une ville médiévale, donc excepté dans les zones où il y a eu des grands travaux, lorsqu'on creuse, on retrouve des vestiges médiévaux. Donc, on savait qu'il y allait avoir des vestiges à trouver. Maintenant, un des points de rentrée pour connaître tout ça, ce sont les archives historiques. Et donc là, il y a un travail de la part des historiens de voir en fait face à quel quartier on était. Et dans ce cas-ci, la fouille de 92-94 avait aussi été complétée par une étude historique de tout le quartier des Bouchers.
D'accord.
Donc on savait plus ou moins où on allait, parce qu'on allait trouver, puisqu'il faut creuser pour ça. Mais donc voilà.
Donc là, on est à la veille de la construction d'un gros projet immobilier. Ça veut dire que vous, ou en tout cas les autorités compétentes, peuvent faire arrêter un chantier pour fouille ?
Les autorités compétentes peuvent faire arrêter un chantier pour fouille. Il y a pour ça le COBAT. On a 21 jours légaux pour pouvoir fouiller. Mais dans ce cas-ci, en fait, l'administration essaye chaque fois de travailler en amont pour éviter de bloquer tous ces chantiers. Et donc là, généralement, on essaye de s'inclure dans un programme afin de ne pas bloquer les travaux.
Oui, sinon vous seriez les ennemis numéro un des entrepreneurs.
Tout à fait, ce que l'on n'est pas évidemment.
D'accord. 21 jours de chantier, est-ce que c'est suffisant ? Ou est-ce qu'on travaille à la hâte ?
Ça dépend pour quel type de chantier. Dans ce cadre-ci, on a eu 4 mois et demi, donc c'est plus de 21 jours.
Oui.
Maintenant, on a des interventions qui peuvent être plus longues ou plus courtes. Ça dépend du type de bâtiment. On a aussi parfois des découvertes fortuites qui ne nécessitent pas de longues interventions. Donc on a tous des cas différents.
Oui, effectivement. Donc là, si je vous entends bien, dès que le chantier sera entamé, ce qui va être le cas dans ces jours-ci, toutes les traces, tous les vestiges vont disparaître ou est-ce qu'il y a quand même certaines précautions qui doivent être prises pour que certaines choses soient conservées ?
Dans ce cas-ci, ça dépendra de l'aménageur, s'il veut conserver certains vestiges. Mais sinon, notre travail, c'est finalement d'enregistrer la mémoire du sol avant sa disparition. Alors pendant le chantier, on aura très certainement un suivi de chantier qui nous permettra d'enregistrer les dernières données auxquelles on n'aurait pas eu accès, par exemple, puisqu'on n'a pas ouvert l'entièreté du site. Donc quelques zones restent encore à étudier, donc on essayera de se glisser dans le programme de chantier pour pouvoir avoir accès à ces dernières zones-là.
Ouais. Qu'est-ce qui fait que le sol a été particulièrement préservé dans le centre historique de Bruxelles ?
Ben, on n'a pas eu, excepté le voûtement de la Seine ou bien le percement du métro, etc., on n'a pas eu de grands bouleversements, de grands travaux. Les éléments finalement qui perturbent le plus, le sol, je vais dire, ce sont l'aménagement des parkings. Donc là, on va vraiment décaisser très profondément le sol. Et donc, à ce moment-là, pour nous, c'est aussi intéressant de pouvoir avoir accès à tout ça. Mais sinon, les archives sont finalement bien conservées.
Voilà, Philippe Sosnowska, vous l'avez bien dit tout à l'heure, Caroline Sosnowska, archéologue de l'ULB à propos des fouilles qui viennent de s'achever dans le centre de Bruxelles.
Ben oui, alors, on l'entendait, un sous-sol préservé, c'est une chance, mais on l'entendait, les archives de la ville contiennent déjà de très nombreuses informations sur la vie telle qu'elle pouvait se dérouler au Moyen-Âge chez nous. Et on peut se demander justement si les fouilles peuvent nous révéler des choses qu'on ne connaissait pas encore. Et on va écouter la réponse de notre invité.
On sait que c'est une ville médiévale, mais on ne sait, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas sur quoi on va tomber. On a chaque fois, dans ce cadre-ci, dans cette fouille particulière, on a retrouvé une grande fosse comprenant un tas d'ossements. On est dans le quartier des Bouchers, c'est logique qu'il y ait quelque chose dans ce goût-là, je vais dire, mais on ne savait pas qu'elle était là.
Vous étiez combien à travailler sur ce chantier-là ?
5 archéologues. Donc on est toute une équipe, hein, le centre de recherche en archéologie et patrimoine. On avait 5 archéologues, 5 opérateurs et on travaille en collaboration avec la Société royale d'archéologie de Bruxelles. Et donc c'est vraiment une grosse équipe et à côté de ça, on a aussi toute une série d'experts qui viennent pour des éléments spécifiques, des archéopédologues, des archéozoologues, des dendrochronologues, donc ce sont tous des mots un petit peu scientifiques et savants. Ouais. Mais par exemple, la dendrochronologie permet d'étudier les bois. Elle va étudier le type d'essence, la provenance. Elle va permettre de dater aussi, dans certains cas, les bois. L'archéozoologue va s'intéresser à l'étude des ossements et donc va pouvoir déterminer quel type de bête. Si dans le quartier des Bouchers, si ce sont... On est face à un abattoir ou plutôt à des déchets de boucherie, donc après découpage de la viande, etc. L'archéopédologue va s'intéresser au sol et va essayer de comprendre finalement la formation du sol et son évolution à travers le temps. Dans ce cadre précis-là, la personne qui a travaillé sur nos fouilles a mis par exemple en évidence une étable, parce qu'il en a retrouvé des déjections animales. Et donc, on sait qu'il y avait une étable à cet endroit-là. Mmh. Donc, c'est vraiment pluridisciplinaire.
Oui, effectivement.
On forme des grandes équipes.
Alors, vous n'y allez pas directement à la brosse à dents, mais quand même, j'imagine que vous n'amenez pas de pelleteuse non plus. Quand on fait des fouilles comme celle-là, il faut quand même énormément de précautions.
Il faut des précautions, mais je vous avouerai qu'on a commencé par la pelleteuse.
Ah oui, d'accord.
Oui, tout à fait, puisque la première chose qu'on a dû faire, c'est passer à travers les couches de démolition. Puisque le terrain a été remblayé par les bâtiments qui ont été démolis. Et donc, on est passé à travers ça. Et donc, c'est le premier stade de fouille. Et après, en fonction des vestiges sur lesquels, les vestiges que l'on trouve, eh bien, on va véritablement changer la manière de fouiller. On travaillera à la pelle en utilisant aussi, on peut aller jusqu'au pinceau, mais c'est plus rare dans ce cas-ci en archéologie urbaine. Ça dépend du type d'artefacts qu'on va retrouver.
Alors, vous parliez de mandibules d'animaux, qui ont été des bœufs, je pense, qui ont été retrouvés dans le sous-sol. Quels autres objets, concrètement, est-ce que vous avez retrouvés là ?
On retrouve finalement un petit peu de tout. Donc, ça dépend. Dans ce cas-ci, il y avait cette fosse avec tous ces ossements. On a retrouvé, donc, en 92-94, ils ont retrouvé un atelier de cordonniers. Et nous, on a finalement retrouvé toute une série de fosses liées à des ateliers de cordonniers ou de savetiers. Donc, on retrouve des semelles, des lacets, des bourses en cuir. Donc ça, c'est une partie des artefacts. On retrouve des objets de la vie de tous les jours, donc de la vaisselle, de table, des pots de cuisson, etc. Généralement sous forme fragmentaire. On a quand même retrouvé cette fois-ci beaucoup de pots entiers, donc ça, c'était vraiment très intéressant. On retrouve aussi tous les matériaux de construction. Donc ça va du bois à la pierre, au mortier, à la brique, etc. Et tous ces éléments, finalement, permettent de dater toutes les différentes couches que l'on retrouve et de comprendre la vie, la manière dont les gens construisaient, les activités artisanales et la vie finalement de tous les jours de ce quartier des Bouchers.
Oui. Alors vous me disiez tout à l'heure que les archives sont bien conservées, donc on sait déjà beaucoup de choses sur ce qui se passait dans le centre de Bruxelles. Est-ce que ces fouilles ont permis d'apprendre des choses justement sur la façon dont les gens vivaient, sur les activités économiques aussi qui s'y déroulaient ?
Le paysage, je veux dire, économique était connu par les sources d'archives. Là, on a vraiment, grâce à l'archéologie, ce que les sources d'archives n'indiquent pas, par exemple, c'était cette fosse avec tous ces ossements. On sait qu'il y avait des cordonniers, mais on ne savait pas où étaient les ateliers. Maintenant, on le sait. Donc, l'archéologie vient compléter les sources d'archives et offre un autre regard et viennent parfois même compléter lourdement, enfin, vraiment de manière importante, tout ce que les archives passent sous silence,
oui.
La vie quotidienne.
On est remonté jusqu'à quelle époque là ?
Les traces les plus anciennes qu'on ait, ce sont des coups de bêche qui indiquent qu'on avait très certainement des prairies ou des champs, donc des coups de bêche dans la terre ou des fosses de drainage. Donc ça, c'est vraiment avant l'urbanisation de la ville. Ça, ce sont les traces les plus anciennes, donc c'est très intéressant pour comprendre l'évolution de la ville. Et donc, à partir du XIIIe et du XIVe siècle, on a les premières phases d'urbanisation, je vais dire, importantes, qu'on découvre grâce à tous les vestiges bâtis, préservés dans le sol, finalement.
Oui. Donc ces vestiges bâtis, justement, ils vont disparaître, là. Ils vont être ensevelis, il n'y a aucune précaution qui est prise pour les préserver.
Non.
Qu'est-ce qu'on va garder comme trace ? Alors, tous les objets, évidemment, oui. Que vous avez récoltés, et puis des images.
Oui, tout à fait. Donc, l'objectif de l'archéologie, c'est de documenter, finalement, et de laisser des traces pour les générations futures et de comprendre aussi maintenant l'histoire de la ville. Mais donc, on réalise toute une série de photos, on réalise des dessins qui vont être mis au net et qui vont servir à une publication, soit d'un rapport, soit véritablement d'un produit fini destiné à la communauté scientifique ou au grand public. Et donc, on a la volonté véritablement de transmettre tout ce savoir. Maintenant, ça prend un petit peu de temps. Et tous les artefacts, qu'ils soient objets, enfin, je veux dire, matériaux de construction ou bien tous les objets, sont conservés au dépôt régional.
Philippe Sosnowska nous éclaire sur les fouilles qui viennent de se terminer dans le cœur de Bruxelles. C'est un archéologue, bien sûr.
Oui, complètement. Vous voyez, il suffit de le dire deux fois et ça va tout seul. Alors, on l'a entendu, ils ont retrouvé beaucoup d'objets qui font sens et qui viennent confirmer tout ce qu'on savait de la vie économique bruxelloise au Moyen-Âge. Maintenant, vu que le chantier est fini, on peut se demander ce qu'il va advenir de tous les objets qui ont été trouvés. Quelles sont les précautions à prendre quand on les manipule? Seront-ils accessibles au public? Autant de questions auxquelles répond notre invité.
Tout dépend du type d'objet. Les bois seront... on fera tout pour éviter qu'ils pourrissent. Donc, ils subiront un traitement particulier. Généralement, la céramique tient bien.
Ouais.
Donc, à ce moment-là, elle est juste nettoyée et entreposée dans les caisses avec tout ce qu'il faut, toutes les normes en fait, de conservation. Ça dépend, les textiles aussi, ça dépend du type d'objet.
Et quand vous les retrouvez, vous les datez sur place ?
Oui, il y a toujours deux phases. Donc on datera, je veux dire, de manière assez large par rapport au type d'objet qu'on a. Mais comme on amasse énormément de tessons et qu'on n'a pas le temps de regarder l'ensemble, on a une première idée chronologique qui est fixée. Et puis après, lors de la post-fouille, donc lors de la rédaction et de l'étude du matériel, on précisera finalement les datations qu'on avait obtenues sur le chantier. Donc il y a vraiment véritablement deux phases. Une phase sur le chantier qui nous permet finalement de voir où on va, et puis la précision lors de la post-fouille où on étudie complètement et tous les objets qu'on a ramassés, je vais dire.
Ouais. Au carbone 14, parce que c'est le truc qu'on nous apprend dans les manuels d'histoire.
Oui, mais ça dépend. Donc on a différents types de techniques de datation, je vais dire. On a ces datations de laboratoire comme le carbone 14 ou la dendrochronologie. Donc le carbone 14, c'est sur le charbon de bois, la dendrochronologie, c'est sur le bois. On a aussi les techniques de taille, par exemple, de la pierre. On sait que les tailleurs de pierre évoluent dans la manière de travailler et évoluent aussi, l'outillage évolue. On a les datations sur les briques, puisque la brique évolue, ce n'est pas un matériau figé. Donc voilà, tous ces éléments-là servent à dater, sans oublier non plus qu'on peut dater l'évolution, finalement, de beaucoup d'artefacts, comme la céramique, elle évolue au cours du temps. Actuellement, je vais dire, la vaisselle évolue aussi hein, depuis les années 60. Eh bien, on a le même phénomène dans les périodes anciennes. Voilà, on a beaucoup d'éléments qui nous permettent finalement de dater les différentes couches, les différentes structures, les différents objets qu'on découvre.
Si je vous comprends bien, là, vous avez découvert le mode de vie des gens à Bruxelles au Moyen-Âge. On sait comment ils vivaient, quel genre d'activité ils faisaient. On sait que les vestiges vont disparaître là au fur et à mesure que les projets immobiliers vont s'installer.
Oui.
Est-ce qu'il serait concevable de reconstituer quelque part le Bruxelles du Moyen-Âge en mettant en scène ces objets ?
Oui, ça se fait généralement sous forme d'exposition. Hein. On a déjà, plus on fouille, plus on en apprendra sur la ville. Il y a des expositions qui servent aussi à ça, justement pour montrer toute cette évolution de la ville au travers de ces objets. Donc voilà.
Là, c'est pas prévu dans un avenir proche de faire une exposition autour de justement tous ces objets retrouvés à Bruxelles.
Non, pas. Je ne pense pas. En tout cas, ce sera l'administration qui prendra
la décision de le
faire et de le lancer. Ceci dit, Bruxelles dispose de quelques musées archéologiques comme le Coudenberg ou Bruxella 1238, où une partie des collections, des objets qu'on retrouve finalement, sont présentés au public.
Mmh. C'est à ça que sont destinés aussi les objets que vous avez retrouvés ici maintenant dans le cœur de Bruxelles ?
Oh, certainement, parce que les objets qui ont été retrouvés ici sont pour certains exceptionnels. Donc, ils vont d'abord être étudiés et on espère après qu'ils seront présentés au public et à la communauté scientifique. Oui.
En attendant, aujourd'hui, si le public veut en savoir plus ?
Il faudra un petit peu attendre. On présentera très certainement nos résultats lors des printemps de l'histoire qui ont lieu chaque année à Bruxelles pendant une semaine de mai. Je ne connais pas encore la date cette année-ci où on présente les résultats de fouilles au public.
Philippe Sosnowska, archéologue de l'ULB.
Oui, Laurent, rendez-vous donc au printemps de l'histoire pour en savoir davantage sur ces fouilles. L'an dernier, c'était début mai. On vous communiquera les dates de cette année dès qu'elles nous parviendront, évidemment.
Et on compte sur vous, Caroline. Merci beaucoup.